11h tout pile sur Radio Campus Tours. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission La Méridienne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie ô combien douloureuse, car selon l'OMS, c'est la deuxième maladie la plus invalidante après l'AVC. Alors, devinez-vous de quoi je parle ? C'est une maladie qui touche surtout les femmes, mais aussi les hommes. C'est une maladie extrêmement douloureuse et qui parfois encore est victime de certains clichés, qui fait qu'on ne croit pas toujours les patients et surtout les patientes. Alors je parle de la migraine et avec moi dans ce studio pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir deux experts. Bonjour Séverine Debier.
Bonjour.
Alors vous êtes praticien hospitalier, vous travaillez au service de neurologie vasculaire aux consultations céphalées migraines et vous faites partie du groupe éthique clinique du CHRU de Tours. Est-ce que c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et bonjour Benjamin Hiver.
Bonjour.
Alors vous êtes également médecin, vous travaillez quant à vous au centre d'évaluation et de traitement de la douleur adulte, toujours au CHRU de Tours, ça se trouve à l'hôpital Bretonneau. Alors on a léché nos auditeurs avant cette pause musicale avec le centre d'évaluation et de traitement de la douleur adulte. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus Benjamin Hiver ?
Oui, c'est une petite unité. En fait, les CETD, donc les centres d'évaluation de traitement de la douleur, c'est des unités qui sont présentes dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est des unités qui sont en fait labellisées par l'État, par les autorités de santé. Il y en a 275 partout en France. Et les missions, ça va être de pouvoir accompagner des patients qui sont dans des situations de douleur chronique. Et puis aussi d'aider leur médecin. Alors, on ne peut pas aider tous les patients qui ont de douleurs chroniques parce qu'en fait, il y a un tiers de la population en France qui souffre régulièrement. Donc nous, on va se concentrer sur les gens qui ont eu des difficultés de prise en charge parce que les traitements qu'ils ont reçus n'ont pas marché ou parce qu'ils ont eu des difficultés à supporter les médicaments parce qu'on utilise beaucoup de médicaments qui peuvent donner des effets indésirables. On va permettre de donner accès à certains traitements qui se font que à l'hôpital ou à certains traitements un peu plus innovants, un peu plus nouveaux. Et puis, pour un certain nombre de ces unités, surtout celles qui vont se trouver dans des CHU, ça va être une participation aussi à de l'enseignement, à de la recherche. Le fonctionnement des unités, il repose sur un trinôme psychologue, infirmier et médecin. Ça va donner une très grande complémentarité dans l'analyse de la situation. Et en général, c'est ça qui va permettre d'aller plus loin que dans le face-à-face habituel du médecin et de son patient. Donc tout seul, je ne servirai pas à grand-chose. C'est uniquement parce que je travaille en équipe qui a une plus-value en fait par rapport aux autres collègues neurologues ou aux médecins traitants habituellement. Pour les maux de tête particulièrement, il n'y a pas forcément d'intitulé, de label qui va être accolé à notre centre, contrairement à ce qui peut se passer pour l'endométriose ou pour la pédiatrie ou pour la cancérologie, où là en fait, quand les gens cherchent sur le site du gouvernement, sur santé.gouv, ils peuvent trouver effectivement la liste de tous les centres. Mais il n'y a pas d'intitulé spécifique pour les céphalées. Et donc, ça dépend vraiment pour la participation dans la prise en charge des maux de tête de la formation et des possibilités du centre. En général, c'est des petites unités. On est assez peu nombreux, à part dans les CHU qui ont un peu de chance. Sinon, dans la plupart des autres, dans des autres centres, il va par exemple y avoir uniquement un médecin et parfois un temps partiel. Donc on est des petites unités, mais de ressources pour amener un peu d'expertise. Et on va essayer de proposer en général même des consultations à plusieurs ensemble, en associant parfois quand c'est possible le médecin traitant ou un expert, comme Séverine Debier, parfois, pour les situations de maux de tête.
C'est-à-dire que vous construisez, disons, un plan de soins, entre guillemets, pour chaque patient ? Comment ça marche ?
C'est l'objectif, effectivement, de croiser les analyses avec, du coup, ces métiers différents pour pouvoir faire une proposition qui va être plus efficace, plus cohérente, qui va prendre en compte, justement, tous ces phénomènes de sensibilisation à la douleur qu'on évoquait. Et puis, pouvoir aller aussi sur des terrains moins utilisés, des techniques non médicamenteuses en particulier, qui sont pas forcément toujours bien utilisées par ailleurs.
Alors, juste une question entre, comment dire, de traverse. Est-ce qu'on peut dire que vous accompagnez les douleurs physiques et pas les douleurs psychiques ou existentielles? Je pense parce qu'on peut dire, bah oui, mais du coup, la neuropsychiatrie, du coup, voilà, est-ce que...
C'est forcément un mix de tout. On ne peut pas souffrir tous les jours physiquement sans en souffrir psychiquement. Plus on a de la douleur physique, plus on risque d'avoir de l'anxiété, voire de la dépression. Et inversement, plus on est mal psychiquement, plus on risque d'être mal physiquement, d'avoir un certain nombre de symptômes, dont de la douleur. En fait, le risque, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui se crée, et puis qu'on retombe dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'isolement social, professionnel, à cause de tout ça. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vision très globale, d'où l'intérêt majeur du psychologue dans ce trinôme.
Vous évoquiez aussi les traitements non médicamenteux. Alors, ça peut être quoi, par exemple ?
Alors, nous, on utilise beaucoup des petits appareils de stimulation électrique.
Ah ! C'est le hobby de Benjamin.
C'est très pratique. En fait, ce qu'on aime bien, surtout, c'est des techniques qui vont être très facilement accessibles, parce que peu coûteuses, très diffusées, qui vont être très faciles à apprendre, pour lesquelles les patients vont avoir une bonne autonomie d'utilisation, de gestion, et qui vont représenter peu d'effets indésirables. Donc, par exemple, l'utilisation d'une bouillotte, d'une vessie de glace, des petites techniques de massage, tout ça, c'est très intéressant. La stimulation électrique, elle se fait sur prescription. Si on veut pouvoir avoir un remboursement par la sécurité sociale, c'est du matériel qu'on va trouver dans toutes les pharmacies, en magasin de matériel médical aussi. C'est très facile d'apprendre à s'en servir et ça va répondre, c'est très polyvalent. On va pouvoir traiter beaucoup de types de douleurs différents. La migraine en particulier, il y a des techniques qui sont reconnues pour ça. Mais pour un peu tout type de douleur, ça va être très intéressant. Donc,
ça marche comment alors ce dispositif? Parce que peut-être que nos auditeurs n'ont jamais croisé ce genre d'outils. Est-ce que vous voudriez nous le décrire?
Je pense que la plupart des gens, ils ont déjà dû voir le téléachat, ils ont déjà dû voir, je ne sais pas si on aura cité des marques, mais genre Sporelec ou des choses comme ça, quoi. Un petit appareil avec des fils et des petits patchs autocollants qu'on va pouvoir coller sur la zone. Alors, pour la rééducation, on peut les coller sur les muscles et puis ça pouvoir des super pectoraux, des abdos, voilà.
Non, ça ne marche pas, en fait. Hein.
Non.
Nous, pour la douleur, on ne va pas cibler les muscles, on va cibler... dans la plupart des situations, on va directement la zone douloureuse. Et puis, en fait, notre cible, c'est surtout les petites terminaisons nerveuses qui sont là. Et on va donner un message qui va être analysé au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau, et qui va venir remplacer le plus possible la douleur. Donc, c'est des sensations qui se veulent agréables, comme des sensations de massage, par exemple. C'est pas un vrai massage, c'est juste la sensation. Mais c'est intéressant.
Alors, admettons, j'ai un Sporelec chez moi. Je me mets ça sur le front ou pas?
Alors, pour la migraine, on peut le positionner sur le front. C'est possible. Il y a des programmes, des sensations qui sont adaptées pour. Ce n'est pas forcément la technique la mieux validée. La technique la mieux validée, c'est une technique à distance, sur le bras. Il y a un appareil dédié pour ça, mais qui n'est pas commercialisé en France, qui est à l'origine un peu des études et de la validation de la technique. Mais avec les appareils qui sont remboursés en France, on peut tout à fait reproduire cette technique et ça marche. Enfin, bon, ça fonctionne.
Bon, à tester alors pour les migraineux, migraineuses qui nous écoutent. Et vous mentionniez des massages. Est-ce qu'on peut dire l'ostéopathie par exemple ?
Alors l'ostéopathie, en crise de migraine, ça paraît compliqué.
Oui, voilà, évidemment.
l'ostéopathie pour la maladie migraineuse, l'état d'hypersensibilité, ça paraît un peu compliqué aussi. Par contre, plus on a des douleurs, plus on répète des crises de migraine, plus on peut aussi voir apparaître d'autres choses, des contractures musculaires, des cervicalgies, et qui peuvent être alimentées par la posture qu'on a au travail, par les activités qu'on fait. Enfin, on peut rentrer dans un cercle vicieux là-dessus. Et sur toutes ces pathologies musculo-squelettiques qui viennent se greffer dessus, là, l'ostéopathie et les techniques manuelles, les techniques de kinésithérapie pourraient être tout à fait intéressantes.
Et pour ce qui est d'exercices de relaxation, de respiration, est-ce que ça aussi, il y a des choses utiles pour les migraineux ?
Oui, oui, pareil. Alors, pareil, en crise de migraine, peut-être que la technique de relaxation est un petit peu compliquée à mettre en place. Par contre, que ce soit pour ces troubles musculo-squelettiques qu'on évoquait tout à l'heure, ou pour l'association, on a évoqué tout à l'heure qu'il y a facilement de l'anxiété, du stress, voire de la dépression qui peuvent être associées à la migraine. Là-dessus, les techniques de relaxation, de méditation en pleine conscience, d'hypnose, ont une assez bonne validation.
Voilà, donc à étudier. Et est-ce qu'il y a dans votre service d'autres professionnels, par exemple un ergothérapeute ou des infirmières qui seraient formées à des techniques particulières et efficaces pour la migraine ?
Alors oui, dans notre unité, on a des infirmières. Elles sont formées à des techniques non médicamenteuses comme le toucher-massage ou la relaxation, voilà. Ce qui n'est pas spécifique de la prise en charge de migraines, qui peut être intéressant en fait dans plein de situations douloureuses différentes. Après, on n'a pas d'autres professionnels. La construction des centres antidouleurs, elle va être variable d'un hôpital à un autre. Il y a un peu le trinôme de base infirmier, psychologue, médecin qui est incontournable. Il y a des unités effectivement qui peuvent avoir un ergothérapeute ou psychomotricien ou un médecin du travail, assistante sociale, kinésithérapeute, c'est possible.
Bon, alors là, je ne résiste pas à vous demander à tous les deux, est-ce qu'il y a des solutions miracles, des remèdes miracles promus sur les réseaux sociaux et qui, à votre avis, eh bien, malheureusement, auditeurs, auditrices, ne marchent vraiment pas.
Bon, s'il y avait une solution miracle, hein, celui qui l'aurait inventé pour la migraine avec le milliard de migraineux dans le monde serait très riche. Donc malheureusement, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup de choses sur l'alimentation notamment, beaucoup de régimes qui sont conseillés, etc. Et ça, il faut faire très attention à ça parce que grosso modo, les migraineux sont déjà impactés, font déjà attention à beaucoup de choses. Donc par exemple, l'alimentation, c'est un peu une idée reçue. Les facteurs alimentaires ne sont pas si importants que ça pour un migraineux. Et on essaye d'incriminer des aliments comme le chocolat qui en fait ne déclenchent pas a priori de crise de migraine. Et il suffirait pas de faire un certain régime en écartant certaines choses, je pense au gluten, des choses comme ça, pour avoir moins de crises de migraine, malheureusement. Par contre, il y a des messages très simples qu'on passe aux migraineux en consultation, c'est un cerveau migraineux toujours n'aime pas les variabilités, les variations brutales internes et externes. Donc par exemple, il aime bien quand on fait des heures, enfin les heures de repas sont à peu près fixes. Alors évidemment, on ne va pas vivre comme des moines avec des heures vraiment très très fixes, mais on dit aux gens, essayez de ne pas sauter de repas, parce que là, par exemple, c'est un gros déclencheur de crise de migraine, tout simplement. Mangez ce que vous voulez, parce que ça, ça n'a pas d'impact vraiment sur vos crises de migraine, de bien s'hydrater, hyper important. Un cerveau migraineux a besoin d'être hydraté. Alors, tout le monde a besoin de boire régulièrement toute la journée, mais un cerveau migraineux doit vraiment avoir un apport en hydratation qui est très régulier sur la journée. Donc ça, c'est important aussi, parce que tout le monde ne le fait pas. Et puis, ce qu'on conseille aussi, chose très simple, hein, qui est gratuite ou presque, c'est l'exercice physique, par exemple, qui a été reconnu comme vraiment dans des études, hein, un exercice physique pas forcément hyper intense, parce que parfois, les migraineux, si on leur demande de faire des choses très, très intenses, brutalement, ça va déclencher des crises. Mais un sport qui leur fait plaisir, plutôt en extérieur si possible, en tout cas une activité physique régulière qui peut être de la natation, de la marche, de la course, promener le chien, etc. Ça a été vraiment démontré comme préventif et on fait moins de crises de migraine et moins sévère quand on fait une activité physique régulière par exemple.
Donc je ne valide pas ma commande du Megapack avec un bonnet réfrigérant, des comprimés de magnésium et puis un assortiment de pierres.
Alors, dans tout ça, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les petits moyens. Quand vous dites le bolet réfrigérant, ça fait rire tout le monde, mais tous les migraineux vous diront qu'ils le font eux-mêmes, parce que ça s'appelle une serviette glacée. Ils mettent de ça, ça fait du bien. On ne l'a pas dit, c'est hyper important. J'y pensais tout à l'heure à propos d'électrostimulation. Dans le mécanisme de la crise de migraine, il y a l'hyperactivation d'un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. C'est le nerf qui va innerver tout le visage, hein, le front, au-dessus des yeux, en dessous des yeux, la pommette, les dents. C'est ce nerf qui décharge trop pendant une crise de migraine. Il est en partie responsable après. Du fait qu'il y ait aussi des peptides et des choses douloureuses qui soient libérées. Et ce nerf, il explique que les gens qui ont mal, quand une crise de migraine, ils peuvent aussi avoir mal au sinus, à l'œil, aux dents, etc. Il explique aussi que l'électrostimulation dont parlait Benjamin peut fonctionner, mais en cas de crise migraineuse, il y a des petits dispositifs. Il y en a un qui s'appelle le Céphalie, je ne vais pas faire de pub parce que malheureusement, je crois qu'il est assez cher et il faut le commander, mais on peut le mettre sur le front et effectivement, il peut avoir une espèce d'effet un peu de désensibilisation de ce nerf qui a tendance à trop décharger. Donc, tous les petits moyens qui font en sorte que cette hypersensibilité est moins forte, donc le froid par exemple, l'huile essentielle de menthol ou de menthe, ça c'est un classique, c'est des petits moyens pour améliorer un peu la douleur et mais ça ne cassera pas la crise. Donc moi, je ne rigole pas des patients qui le font. Je leur dis, si ça vous fait du bien, que vous êtes à la maison et que vous voulez faire ça plutôt que de prendre un médicament parce que ça suffit à vous soulager et que ce n'est pas une grosse crise de migraine, ben faites-le. On est d'accord que mouiller la serviette et la mettre sur la tronche ou le bonnet réfrigérant en open space, ce n'est pas évident. Donc ça, c'est des petits moyens qui marchent un petit peu parce qu'on comprend pourquoi ça fonctionne. Malheureusement, ce n'est souvent pas assez efficace pour casser une crise. Et après, il y a des choses qui sont peut-être vendues comme prenez du magnésium, mangez je ne sais pas quoi, etc. Bon, le magnésium, si vous en prenez, c'est pas très grave, par exemple, c'est pas très cher. Mais honnêtement, ça risque de pas fonctionner complètement, malheureusement, pour soulager vos migraines.
Et après, il faut être assez prudent. Enfin, c'est vrai qu'on est dans une période où il y a une tendance à aller vers beaucoup de techniques non médicamenteuses. Il y a une offre. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui proposent leurs services sur des techniques énergétiques et ci et ça. Et voilà. Quand on est douloureux chronique, migraineux, et qu'on est dans une situation compliquée parce que les crises se répètent et ça devient très handicapant, c'est vrai qu'on peut être prêt à faire un peu tout, j'allais dire un peu tout et n'importe quoi, non, mais un peu tout pour se soulager. Hein, et donc, il faut quand même être vigilant à ne pas tomber sous l'influence de quelqu'un de mal intentionné, même si ça ne doit pas être la majorité des situations. Il faut faire attention aux dérives, quoi.
Parce que nous, on prône en consultation, on leur explique les traitements qu'on va leur proposer, les traitements de fond si on a besoin, et on leur propose et on leur dit de compléter tout ça par des mesures non médicamenteuses, parce qu'elles sont encore une fois gratuites, pas d'effets secondaires, que bénéfiques, et chaque patient peut être attiré plus ou moins par certaines techniques. Le point commun, moi je pense que de tout ce que je propose, c'est fait par des soignants. Moi, l'ostéopathie, c'est pas validé par les grandes études, etc., mais je trouve que ça fonctionne pas mal, 2-3 séances qui remettent tout un peu en place, c'est ce que j'explique un peu aux patients, c'est un peu grossier, mais ça fait pas de mal aux migraineux souvent. C'est logique que tout ce qui abaisse le seuil anxieux abaisse le seuil migraineux, puisqu'on parle aussi en seuil de migraine, c'est-à-dire que les migraineux, ils ont un seuil très bas, et dès que vous mettez un peu de changement, un peu d'anxiété, un peu de manque de sommeil, un peu de trucs, boum, ils font une crise de migraine. Et leur seuil anxieux, il est un petit peu plus sensible aussi, un peu plus bas. Si vous voulez le remonter, c'est normal que toutes les techniques qui vont faire vous détendre un peu plus, la sophrologie, la relaxation, la méditation en pleine conscience, l'hypnose, tout ça, ça va fonctionner un peu. Et si c'est fait par des soignants, il n'y a pas de risque et ça peut être que bénéfique. Mais attention, effectivement, aux gens non soignants qui proposeraient des choses miraculeuses parce que malheureusement ça n'existe pas.
Est-ce que une thérapie d'exposition pour tempérer ces hypersensibilités, ça marche? De dire tiens, moi ce qui me fait souffrir quand j'ai une crise, c'est les gros néons. Du coup, je vais faire exprès te mettre régulièrement, quand j'ai pas de migraine, 100 ans, dans des endroits où il y a plein de néons ou plein de bruit pour souffrir moins. Est-ce que ça marche ?
Alors déjà, ça c'est une idée de non-migraineux, mais j'ai vu que c'était proposé dans certaines équipes de recherche, parce qu'il faut vraiment être très très vicieux. En même temps, cette question est très bonne, parce qu'on pourrait se dire, comme il est hypersensible et que le cerveau est hyper réactif, à force de lui présenter le stimulus, bon, alors je peux vous dire, en bonne migraineuse qui fréquente les néons de les hôpitaux depuis 20 ou 30 ans, que malheureusement, on ne s'habitue pas tout à fait. De façon plus scientifique, on a fait des études justement où on habitue par exemple à un stimulus visuel, enfin on balance un stimulus visuel à des patients migraineux et non migraineux. Un cerveau non migraineux, à un moment, il arrête d'agresser. Alors, je fais très simple, hein, mais en IRM fonctionnel, on voit que le cerveau s'habitue et qu'il y a un effet d'habituation justement, le cerveau normal, on va dire, et qu'à un moment, vous ne réagissez pas de la même façon à un stimulus visuel. Le cerveau migraineux, lui qui est hyper réactif, eh ben, il a du mal à ne pas surréagir à chaque stimulation visuelle et il ne s'habitue pas. Ça, si on fait ça ponctuellement, il n'y a pas d'effet d'habituation avec un cerveau migraineux. Donc, il y a des gens qui proposent peut-être des fois de l'exposition à certains facteurs pour que le patient devienne un peu moins hyperréactif à ça. J'avoue que moi, je n'ai pas d'expérience de ça et que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident avec un cerveau migraineux.
Donc, n'essayez pas à la maison. Et si on se penche sur les pistes de recherche en cours pour trouver de nouveaux traitements pour les migraineux, il est question parfois du microbiote. Alors, peut-être voudriez-vous nous rappeler c'est quoi et sur quoi penchent les recherches là?
Bon, alors là, on est off, mais on se regarde avec Benjamin parce qu'en bon médecin hospitalier, on est là, oh là là, le microbiote, on ne connaît pas bien. Alors, je vais faire une aparté, je pense que les médecins ne sont pas tous très bien formés à ça. Le microbiote, l'ensemble des bactéries, hein, on dit qu'on n'est que des bactéries qui sont dans notre tube digestif. Alors, il y a un truc que les gens entendent tout le temps et qui n'est pas faux, c'est que maintenant, on dit le tube intestinal, le tube digestif, c'est le deuxième cerveau. C'est une image pour dire qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de choses qui sont gérées, notamment avec ces histoires de bactéries et aussi avec des innervations et des points de connexion qu'on appelle le nerf vagal, par exemple, entre le cerveau et l'intestin, qui font qu'effectivement, il se passe à ce niveau-là, au niveau intestinal, bah, plein de choses qui vont régler et réguler un tas de choses dans notre corps et même notre cerveau qu'on ignorait jusqu'à maintenant. Alors, le microbiote, c'est... Voilà, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, c'est quelque chose que maintenant, on étudie dans toutes les pathologies chroniques, hein, on le fait dans les maladies inflammatoires, dans les maladies articulaires, et à chaque fois, bah, bingo, on se rend compte que le microbiote, donc la façon dont sont réparties les bactéries d'un patient qui a cette maladie, n'est pas tout à fait pareil que la moyenne des gens qui n'ont pas cette maladie. Dans la migraine, c'est vraiment au stade de recherche actuellement, il y a un gros laboratoire à Clermont-Ferrand, là, Neurodol, qui le fait, qui a commencé à étudier ça et qui semble montrer, mais ce n'est pas encore concordant entre les différentes études, que effectivement, le microbiote, la composition bactérienne intestinale d'un migraineux ne serait pas tout à fait la même et qu'il y aurait des explications peut-être, alors cause-conséquence, on ne sait pas très bien, mais que notamment, certaines bactéries qui ont un effet anti-inflammatoire sont moins présentes, que d'autres qui, au contraire, qui sont un peu trop activatrices de nerfs vagales, par exemple, vont être plus présentes que d'autres et on pourrait expliquer peut-être une partie de la physiopathologie qui est déjà très complexe avec ce microbiote. L'idée étant de pouvoir après cibler un peu certaines bactéries et de se dire bah tiens, en donnant telle substance, en prenant tel médicament ou telle substance, je vais éventuellement pouvoir modifier un peu ce microbiote et améliorer la prise en charge de la migraine. Pour l'instant, je pense qu'on en est au stade de recherche.
Et alors, dans les travaux de la même équipe qu'on salue au passage, hein, si d'aventure ils nous écoutent, laboratoire Neurodol, alors on peut citer Radouane Dallel, hein, qui est spécialiste de la migraine dans le dit laboratoire, il est question d'encéphaline. Alors je cite « booster la production par le cerveau pour ne pas prendre de molécules exogènes ». Alors là, nos auditeurs ouvrent de grands yeux, allons-y, on vulgarise. qu'est-ce que vous pourrez dire sur l'encéphaline, du coup
Alors, l'encéphaline, moi, je ne connais pas bien. Je vais rebondir quand même sur ce laboratoire pour vous dire, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que justement, les laboratoires de recherche où il y a des chercheurs qui font spécifiquement des recherches sur la physiopathologie de la migraine, c'est tellement rare qu'on les connaît. Et que, par exemple, bah, vous avez retrouvé celui-ci, Neurodol. Moi, je vais citer Xavier Moisset, qui est un nom assez connu dans le monde de la neurologie, parce que c'est un neurologue à la base et qui travaille comme chercheur avec Radouane Dallel sur toutes ces pathologies. Et eux, ils sont partis donc sur le microbiote, ils sont partis sur le tryptophane, donc sur des acides aminés qui sont précurseurs de la sérotonine, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a certaines substances chimiques comme la sérotonine qui sont impliquées directement dans l'humeur, dans le sommeil et aussi dans les crises migraineuses. Et après, ils essayent de chercher effectivement des substances qui pourraient être impliquées dans la physiopathologie de la migraine et qu'on ne connaît pas encore. Moi, l'encéphaline, par exemple, je n'ai pas du tout de recul. Je pense que là aussi, c'est une piste de recherche à l'heure actuelle uniquement.
Et alors, puisqu'on parle de liens potentiels, possibles, très probables entre la migraine et la dépression, est-ce que d'aventure, un travail de recherche au laboratoire iBrain à Tours, ça pourrait être intéressant ?
Alors ça c'est sûr, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle ? Nous ne croyons pas.
Là, c'est le moment de faire du lobby, peut-être ?
Oui. Non, c'est vrai que là, pour reprendre toute la discussion qu'on a eue sur la prise en charge et sur la recherche, on voit bien que nous, on, par exemple, quand vous voyez sur Internet, les gens, ils ont cherché, ils viennent me voir, et parfois, ils ont fait 2 heures de route. Hein. Ah, je viens voir le centre céphalée-migraine. Je fais, bah, vous avez moi, c'est déjà pas mal, mais je suis le centre céphalée-migraine, madame. Parce que malheureusement, j'aimerais avoir dans la consultation neurologique où je travaille pour la migraine, un psychologue, un psychiatre, un kiné, un ergothérapeute. Et tout ça serait très utile pour les patients et serait vu par toutes ces professionnels à la demande, peut-être. Et dans les gros centres de céphalée, dans les gros centres douleurs qui prennent en charge des migraineux, il y en a à Nice, il y en a à Lille, voilà, il y en a à Clermont-Ferrand. Les centres douleurs, généralement, sont associés à la neurologie ou un neurologue travaille dans un centre douleur et ils ont tout ça, je dirais, tous ces professionnels sous la main. Et pour ce qui est de la recherche, on voit bien, hein, ça c'est un truc bien connu, bien qu'elle coûte très cher, bien qu'elle concerne beaucoup de patients, on considère que la migraine, elle coûte aussi cher quasiment que toutes les autres pathologies neurologiques. Mais quand on voit les fonds qui sont mis dans la recherche pour la migraine, jusqu'à maintenant en tout cas, c'était nettement inférieur à toutes les autres pathologies neurologiques, par exemple. Donc c'est un peu le parent pauvre dans la recherche, la migraine. Et donc, bah, sans rire, c'est un appel aussi un peu à ce qu'il y ait beaucoup plus d'équipes de recherche. Effectivement, nous à Tours, on a par exemple la Beau-Ibrain qui travaille sur la dépression. Dépression, migraine, on pourrait tout à fait imaginer des travaux conjoints. Mais des grosses équipes de recherche, il y en a de connues 3, 4, 5 en France à l'heure actuelle sur la migraine. Alors que la plupart des autres pathologies font l'objet quand même de beaucoup plus d'études, je pense.
Et alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné non plus, mais sur l'idée de faire ruisseler les connaissances, le savoir sur la migraine, il existe, disons, des DU, en fait, des diplômes universitaires qu'on peut avoir dans le cadre de la formation continue quand on est soignant sur la migraine. D'ailleurs, vous avez plusieurs DU, est-ce que vous voudriez nous en dire un mot ?
Alors, moi, j'ai 7 ou 8 DU qui partent un peu dans tous les sens, mais en tout cas, j'ai fait un DU d'hypnose médicale parce que je voulais soigner des patients migraineux et ça m'a beaucoup servi, même si je ne fais pas de séance d'hypnose formalisée, la conversation hypnotique, etc. Enfin, c'est des techniques de communication aussi qui seraient très utiles pour tous les médecins, quels que soient les patients, et qui est très utile pour les douloureux chroniques. Ça, c'est un peu à part, mais il y a en France un DU céphalée-migraine qui existe depuis toujours, enfin très longtemps. Moi, je l'ai fait en 2006, je pense que Benjamin l'a fait plus récemment. Ça nous donne une espèce de hyper-compétence, qu'on soit neurologue ou médecin de la douleur comme Benjamin, d'hyper-compétence où vraiment on fait une formation spécifique sur les céphalées. On a plein de cours qu'on n'a pas eu en tant que neurologue. Moi, en tant qu'interne de neurologie, je n'avais jamais eu ces cours sur les migraines et bien d'autres pathologies qui donnent mal à la tête et au visage, des névralgies, etc. Donc on apprend plein de choses, c'est un DU très pratique et quand vous en sortez, vous pouvez vraiment après voir des patients en consultation et être utile. On a des terrains de stage, donc moi je suis allée au centre d'urgence céphalée à Lariboisière qui est un gros centre de référence. Certaines de mes collègues sont allées récemment à Montpellier voir Anne Ducrot, le professeur Anne Ducrot qui est un grand nom aussi de la neurologie et de la migraine. Et pour les médecins comme un médecin généraliste, hein, par exemple un urgentiste, un médecin de la douleur peut s'inscrire à ce DU et avoir comme ça une hyper spécialisation qui est bien, bien pratique, je pense, dans ton quotidien et comme clinicien. Quoi.
Avec une formation aujourd'hui qui se fait en visio, donc est assez pratique, il n'y a pas forcément besoin de se déplacer pour tous les cours, juste pour les stages.
Et c'est ouvert à tous les médecins et les gens qui veulent prendre en charge des patients, que ce soit encore une fois aux urgences ou dans leur consultation de médecine générale ou dans un centre douleur, etc. C'est, quand on sort de là, on a vraiment une bonne spécialisation. On est apte à gérer beaucoup de choses, effectivement. Et on a dans l'équipe à Tours, là, régulièrement des internes et des plus jeunes. Il y en a encore 3 cette année qui m'ont demandé, là, ils m'en ont parlé hier soir, qui sont en train de se former.
Bonne nouvelle.
Oui.
Et alors, on a mentionné plusieurs fois l'association La Voix des Migraineux, donc c'est patients migraineux là, qui œuvrent pour faire connaître cette maladie et peut-être que certains sont patients experts ou patients relais. Donc là, est-ce que c'est des accompagnants que vous pouvez solliciter à Tours, que ce soit au centre douleur ou autrement ?
Pour ce qui est de la voix des migraineux, moi j'étais un petit peu en rapport avec eux ponctuellement, mais je ne connais pas mieux que ça. En tout cas, il faut les signaler parce que c'est une des rares associations et ils sont montés il y a quelques années. Vraiment, ils font un travail énorme de sensibilisation, d'information. Moi, je donne leur site aux patients. Hein. Je fais partie des sites internet. Il y en a d'autres que je donne, mais il y a la Société Savante Française, la SFEMC. Quand vous tapez ça sur Google, il y a un site scientifique qui donne des informations aux patients. Mais la voix des migraineux a un site internet qui est très bien fait avec des informations vérifiées. Ils ont mené des études même qui ont été publiées dans des revues, ce qui est assez rare pour des associations de patients, et ils sont très mobilisés autour du remboursement des traitements, et ils ont bien raison. La présidente est vraiment très très active, alors elle, je pense qu'elle est patiente experte. Après, patient expert, c'est vraiment un truc très particulier, puisque là aussi, il faut une formation, un DU qui vous donne la capacité d'être reconnu comme un patient expert. Nous, on n'y a pas recours actuellement à tour. Dans un monde idéal, on n'en a pas parlé, moi j'imagine très bien, et ça se fait ailleurs, faire ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Ça se fait en douleur chronique en général, et la maladie migraineuse se prête très bien à ça. L'éducation thérapeutique, c'est quand vous apportez aux patients en fait une espèce de connaissance de leur pathologie, plein de savoirs où ils vont pouvoir gérer après tout seul leur maladie, être très autonomes par rapport à ça. Donc c'est pas des cours, c'est pas des formations, c'est beaucoup plus intéressant que ça, je pense, et interactif avec les patients. Et là, on peut imaginer effectivement de faire venir un jour un patient expert formé, mais il n'y en a pas, à mon avis, beaucoup en France.
Donc nous, effectivement, au Centre d'évaluation et traitement de la douleur, on travaille actuellement à essayer de proposer une offre d'ateliers en éducation thérapeutique. Donc c'est en cours de création. On n'a pas de patient expert avec le label patient expert. On travaille aujourd'hui plutôt avec du coup des patients témoins pas dans le champ de la migraine, mais plutôt par rapport à l'implantation de neurostimulateurs, donc la stimulation électrique, mais comme un petit pacemaker implanté dans le corps. Et donc là, effectivement, on a des patients qui viennent discuter avec d'autres patients candidats à cette technique pour leur faire comprendre ce que c'est que le quotidien. À l'avenir, peut-être, pourquoi pas, effectivement, essayer de l'étendre à d'autres pathologies. Mais il faut un petit peu de temps, un petit peu de moyens. Et comme vous l'avez compris, que ce soit côté neurologie pour la prise en charge de la migraine ou côté douleur, on reste des petites unités.
Alors, si vous deviez appeler de vos voeux quelque chose, qu'est-ce que vous demanderiez aux autorités compétentes ?
Que la maladie migraineuse soit enfin reconnue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une maladie neurologique, sévère, invalidante, impactante, qui entraîne des millions, des milliards en fait. Là, c'est des milliards que ça coûte à la société et aux patients migraineux eux-mêmes et aux employeurs, qui est responsable de millions de jours d'arrêt de travail, qui a des traitements spécifiques maintenant, qui a des traitements bien validés. Et il faut que les patients français migraineux aient accès à ces traitements absolument qui changent la vie quand même, vraiment, et qui permettent à des gens de retourner au travail, de redevenir actifs. Donc en termes de productivité, en termes financiers, souvent on nous oppose que ces traitements coûtent des sous. Oui, ils coûtent des sous, mais si on donne ces patients à des migraineux qui sont en arrêt de travail ou qui ont plein de problèmes avec par exemple la productivité ou leur rapport au monde du travail, on va au contraire récupérer forcément de l'argent. Il y a des études qui ont très bien montré ça. Donc c'est pouvoir maintenant avoir un accès à ces traitements et qu'ils soient remboursés, donc les nouveaux traitements dont on a parlé. Ces traitements, on a essayé de les délivrer un peu à l'hôpital sous forme de perfusion, donc il y a certains patients qui ont accès quand même, et là c'est remboursé, enfin c'est l'hôpital qui paye, donc ils n'ont pas à payer, mais les lits et les places, on va dire, pour ces perfusions sont un peu comptées, donc c'est pas tous les patients loin de là. Et je pense vraiment qu'il faut changer complètement, c'est clair. Il faudrait un plan migraine. Enfin, il faut que cette pathologie soit enfin reconnue comme ce qu'elle est. Encore une fois, une maladie neurologique. Il y a eu un plan AVC qui était parfaitement justifié. Il y a des plans cancers qui sont parfaitement justifiés. La migraine, c'est un vrai problème de santé publique. Et je pense que le jour où elle sera reconnue comme telle, tout suivra. Parce que nous, maintenant, médecins et scientifiques, on a les traitements, les études. Il y a des nouveaux traitements encore qui sont en cours de recherche qui vont arriver. Donc on a un vrai arsenal thérapeutique. Donc l'image aussi de cette pathologie qui n'était pas traitable, il n'y a rien à faire madame, ça c'est totalement faux. On a plein de moyens thérapeutiques, il faut que les patients y accèdent, et la voie des migraineux a très bien montré dans une étude encore récemment que malheureusement en France comme ailleurs, les patients, les migraineux ont très peu accès finalement à une prise en charge correcte, spécifique, adaptée à leur migraine.
Eh bien merci à vous deux en tout cas d'être venus jusqu'à Radio Campus Tour pour nous parler de migraines et aussi des possibilités, comme vous le rappelez. Alors cette émission, elle est à réécouter à volonté en podcast sur notre site. Et puis on mettra aussi en lien diverses choses qui ont été mentionnées dans cette émission, notamment le lien vers le site de La Voix des Migraineux. Je cite aussi au passage pour nos auditeurs et auditrices qui vont plutôt sur les réseaux sociaux que sur Instagram, il y a le compte doc.migraine, c'est Jérôme Maoué, donc qui est neurologue, expert migraine et céphalée, et qui fait là des publications aussi sur le sujet. Et pour le coup, c'est vérifié, il n'y a pas de pierre magique non plus. Voilà.
C'est pas le genre. Mais je le conseille aux plus jeunes, surtout, ça leur parle plus Instagram. Moi, ils sortent de consultation avec une petite liste de sites internet, de lectures parfois, et pour les plus jeunes, de Instagram. Et doc.migraine, c'est un site qui est très bien fait. Et Jérôme Maoué est un expert reconnu, et on peut tout à fait aller consulter ce qu'il dit. C'est très intéressant, effectivement.
Est-ce que vous avez une recommandation de votre côté sur la douleur, quelle qu'elle soit, Benjamin Hiver ? Une ressource intéressante ?
Des ressources pour les patients, pour nous trouver facilement sur le site santé.gouv. Il y a le listing et la cartographie surtout, c'est une carte interactive. On peut cliquer pour avoir toutes les localisations et tous les contacts de tous les centres antidouleurs labellisés en France et dans les Outre-mer. Et puis il y a un document aussi de l'HAS sur le parcours de soins qui est très bien fait pour justement comprendre qui gère quoi entre médecins traitants, les médecins spécialistes, les centres antidouleurs, comment tout ça, ça interagit.
Eh bien, merci à nouveau Séverine Debier et Benjamin Hiver d'être venus dans cette émission La Méridienne. Alors auditeurs, auditrices, il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible, évidemment à l'écoute de nos excellents programmes. Et nous allons nous quitter en musique, enfin pas tout à fait. Je vous propose d'écouter un son original que vous ne connaissez peut-être pas, puisqu'il était question de faire de l'exercice physique, voilà, mais de l'exercice doux et profitable. Eh bien, je vous propose 3 minutes pour faire un exercice matinal. Alors, c'est quelque chose qui s'appelle Radio Taiso. C'est diffusé sur une radio nationale japonaise depuis 1951. Et voilà, donc vous allez pouvoir écouter ce son, Radio Taiso, et sur Internet, pour les fans, et ben vous trouverez plein de vidéos sur YouTube, Dailymotion, Instagram, de personnes qui se filment faisant cette routine. Je vous encourage à le faire, ça ne dure que 3 minutes. Et en effet, c'est adapté à tous les publics, tous les âges. Alors, c'est parti, écoutons ça sur Radio Campus Tour.
Radio Taiso Daichi. では前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。腕を回します。1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動横振り斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6。ねじる運動1、2、3、4。大きく7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して手足の運動強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし反対の斜め下に正面で胸反らし1、2、3、4、5、6。体を回しましょう1、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じ1、2、3、4、5、6。手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸大きく息を吸い込んで吐きます5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。